BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Happy Boulot Le Mag. On va parler salaire. Et oui, dans une rentrée tourmentée, est-ce qu'il faut mettre les pieds dans le plat ou est-ce que c'est trop tard? On parlera fixe mais aussi variable. Deux spécialistes seront avec nous. Fabien Lucron, directeur du développement de Primeum, et Khaled Aboulaïch, directeur général d'Expectra. Mais avant, dans cette émission, on va parler à un DRH. On aime bien aller dans les sujets humains avec les gens qui ont les mains dans le cambouis. On parlera avec la DRH de Nexity. C'est Sophie Audebert qui sera avec nous dans un instant. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et c'est une exécutive de la semaine qui est avec nous, Sophie Audebert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes DRH de Nexity, groupe de promotion et de services immobiliers, 11 000 collaborateurs, 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, groupe coté.
C'est ça.
Comment s'est passée cette reprise d'activité en cette rentrée, je le disais en sommaire, un petit peu tourmentée?
Effectivement, alors nous avons géré, je pense, de façon plutôt au mieux la crise, hein, le confinement. Et c'est vrai que les collaborateurs avaient aussi envie de revenir. Donc cette reprise, elle est sous l'angle quand même de la sécurité pour nos collaborateurs, la santé avant tout, mais dans le cas d'une reprise d'activité quand même, parce que la diversité de nos métiers fait que finalement nous avons beaucoup de métiers qui sont en contact avec nos clients et donc on a besoin d'organiser cette activité dans le respect des gestes barrières.
Donc vous êtes sur aujourd'hui 50% de télétravail, quelle est un peu votre vision?
Alors, aujourd'hui, on est en train de mettre en place une deuxième journée de télétravail. On pratiquait déjà le télétravail depuis 2017. Donc, il y avait déjà des habitudes, des réflexes qui étaient bien mis en place pour les collaborateurs et les managers. Et puis, le confinement a fait que ça a été un accélérateur et qu'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec les outils de digitalisation. Les collaborateurs sont habitués, sont même plutôt demandeurs. Pas d'un télétravail à temps plein, vraiment de...
Ça n'aide plus personne, hein. Ah, ça c'est fini. Post-confinement, ouais. On avait très envie, mais là, quand même, tout le monde, cette rentrée, tout le monde revient sur cette idée.
Hein. Exactement, donc plutôt 2 jours par semaine, et à la charge des managers. Nous avons vraiment impliqué les managers de proximité pour qu'ils organisent au mieux leur activité avec leurs collaborateurs.
Donc ça, c'est intéressant. Chaque manager, dans son coin, organise ses équipes, enfin dans son coin en tout cas, est libre de l'organisation de son équipe.
Tout à fait, dans un cadre que nous avons fixé. Il y a une cellule de crise qui est très active, qui est là pour les aider, les renseigner. Et puis, effectivement, selon la taille de l'entreprise, de la structure, parce que nous avons des filiales de très grande taille, d'autres plus petites, parfois, pour respecter les gestes barrières, on n'est pas forcément obligé de rajouter du télétravail, donc en fonction de chacune des situations. Et nous avons des métiers où les collaborateurs sont déjà nomades. Donc, de ce fait, il y a moins de concentration, moins de densité sur le lieu de travail. Donc oui, une grande application du management.
Il y a un certain stress sur le retour au travail de la part des salariés, de la part des équipes. Alors moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est dans quel état est l'équipe RH quand même un peu essorée pendant le confinement, à qui on demande de changer les règles plusieurs fois par jour parfois.
C'est ça.
Dans quel état sont les équipes?
Les équipes ont été très, très mobilisées et on a... eu effectivement à la fin, au moment de la reprise, un peu un effet décompensation parce qu'on était resté très mobilisé parce qu'il n'y avait pas le choix. Comme vous le disiez, hein, tous les jours, lire, interpréter des textes, les mettre en application dans des structures extrêmement différentes, dans des métiers différents. Mais l'équipe est fière aujourd'hui parce qu'on a eu quand même de la reconnaissance et des collaborateurs et des managers de la direction. Et donc, on s'est senti extrêmement utile.
Reconnaissance et salaire, parce que ça va être l'objet de notre deuxième partie. Mais c'est une vraie question, ça, sur l'ensemble des gens qui ont été très mobilisés pendant le confinement, pendant le déconfinement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui... Alors, la reconnaissance, c'est bien de dire merci, tout le monde a bien travaillé.
C'est déjà bien.
C'est déjà pas mal, je suis d'accord. Mais est-ce que ça se traduit en augmentation de salaire, voire en évolution de poste?
Alors, l'augmentation de salaire, elle sera palliée... Au Covid, on a plutôt demandé et on a mis en place des gestes de solidarité. Donc il n'y aura pas de prime Covid en tant que telle. En revanche, effectivement, au moment des révisions salariales, on saura récompenser ceux qui ont été les plus impliqués, les plus mobilisés. Dans le groupe Dexity, nous gérons des résidences seniors notamment. Et donc, évidemment, les collaborateurs à proximité des seniors ont travaillé pendant tout le confinement. Et donc, eux, bien évidemment, je crois qu'il y a un certain nombre d'autres collaborateurs très mobilisés seront récompensés dans le cadre des révisions salariales, oui, je pense.
Nexity, bien sûr, c'est un groupe de promotion de services, un groupe immobilier dans le secteur de l'immobilier. En tant que femme, on discute globalement avec l'ensemble des autres femmes que l'on côtoie à BFM Business. Le secteur n'est pas très en avance sur la question des femmes, des recrutements féminins. Pas mal de questions qui se posent encore dans le secteur. Est-ce que vous arrivez à attirer des femmes, à les garder, à les rendre managers, à les faire évoluer, ou vous avez un vrai sujet là-dessus?
Alors, je dirais qu'on a moins le sujet. On y travaille beaucoup. On nous sommes mobilisés sur le sujet. On a mis en place beaucoup de choses depuis déjà pas mal d'années. Donc aujourd'hui, ça porte ses fruits. C'est pas forcément quelque chose de naturel et spontané. Faut rester vigilant. Mais nous avons des femmes, y compris sur des métiers d'hommes, des directrices de filiales de promotion immobilière.
Vous avez des objectifs chiffrés de quotas, de montée en compétences de femmes?
Alors aujourd'hui, on a 50% et on est vigilant à avoir 50% de nos potentiels femmes. Nous avons un objectif qui a été évolutif au fil de l'eau pour avoir 35% de femmes dans le club des dirigeants. Donc 35% fin 2020, on y sera. Et on est toujours très vigilant, effectivement, à se dire, lorsqu'on recrute, au regard des CV, s'assurer qu'on a bien des hommes et des femmes. On ne met pas de quota au recrutement.
Mais il y a une politique proactive.
Exactement.
Quand vous dites de vos talents, c'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez derrière? C'est quoi un talent pour Nexity?
Alors, un talent, il y a plusieurs catégories, entre guillemets. On a ce qu'on appelle un programme des Next, c'est-à-dire les futurs dirigeants d'entreprise. Ce sont des collaborateurs qui ont été détectés par leur manager et par la RH comme potentiels évolutifs à court terme. Donc, ils rentrent dans un programme de développement des compétences individuelles et collectives qui dure sur 18 mois. Et puis, on a plein de collaborateurs qui, au moment des comités de détection, sont détectés comme potentiels évolutifs, qu'on va accompagner au fil de l'eau, notamment grâce à notre centre de formation qu'on vient de développer, qui s'appelle la Cité Nexity.
Mais donc, ça doit être un but pour certains collaborateurs de rentrer dans ce programme, d'être détectés?
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils font les intéressants? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être détecté?
Non, il faut faire très très bien son travail. Les qualités chez Nexity, c'est une entreprise bouillonnante, donc il faut être curieux, être agile, être entrepreneur. Et c'est une entreprise, et souvent dans le secteur de l'immobilier, mais chez Nexity, si on a envie, si on est très motivé, engagé, on évolue. Donc voilà, ça donne aussi, je dirais, des perspectives pour les jeunes collaborateurs.
Il n'y a que des jeunes? C'est quoi à peu près?
C'est plutôt, des jeunes, moi je trouve ça jeune.
Oui.
Mais on va dire trentenaires.
Oui, c'est les trentenaires.
Oui, plutôt les trentenaires.
Il faut quand même avoir fait un peu ses preuves chez Nexity.
Quelques années, oui. Quelques années. Et après, ça nous constitue un vivier. C'est la cinquième année. On a déjà formé plus de 160 collaborateurs. Enfin, formé, accompagné, développé 160 collaborateurs. C'est un vivier. Et ça nous permet, lorsqu'on a un poste vacant ou à pourvoir sur un poste de direction, un directeur d'une filiale, de se dire finalement, est-ce qu'on ne peut pas, on va systématiquement regarder dans ce vivier pour pouvoir faire évoluer des collaborateurs, oui.
Vous recrutez toujours pour cette année ou vous avez mis un petit peu vous avez resserré un peu le vivier?
Alors, on va recruter. L'an dernier, nous avons accueilli 2500 collaborateurs, tout contrat confondu. On va continuer à recruter cette année. Au premier semestre, on avait déjà recruté plus de 1100 collaborateurs. On va freiner un peu parce que, évidemment, l'impact Covid fait qu'on va être un peu plus prudent sur nos recrutements. Et on va plutôt développer la mobilité, vraiment mettre un coup d'accélérateur sur la mobilité pour donner des perspectives aux collaborateurs et se dire on va préserver l'emploi vraiment chez Nexity. Et plutôt que de se poser la question, lorsqu'il y a un poste à pourvoir, on va essayer de le pourvoir en interne.
Donc, quand même, il y a un petit coup de frein.
Il y a un petit coup de frein.
Enfin, oui, un gros coup de frein.
Non, pas sévère parce qu'on continue à recruter. On continue vraiment à recruter. On a des postes à pourvoir, un peu moins, mais on va essayer vraiment de donner un coup de boost à la mobilité.
Donc mobilité, ça veut dire formation interne?
Oui.
Vous nous parliez de
la Cité.
Oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est?
Alors, on a inauguré en novembre 2019, la Cité. Donc, c'est notre centre d'entraînement et développement des compétences pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, on espère faire de Nexity une entreprise apprenante. Donc, chacun peut développer ses compétences, son employabilité. Je crois que c'est une condition sine qua non aujourd'hui pour pouvoir se projeter. Et puis aussi...
Pour Nexity ou pour ailleurs?
Pour ailleurs, pour tout le monde. Aujourd'hui, un collaborateur doit pouvoir se projeter, développer ses compétences, se projeter sur un métier qu'il ne connaît pas forcément très très bien aujourd'hui. Donc on y travaille vraiment beaucoup. Et puis aussi, on développe le transfert et l'échange de compétences entre collaborateurs.
Donc c'est une école, quoi. Ça ressemble à quoi?
C'est pas physique.
Non,
il n'y a pas de mur. C'est ce qu'on pourrait appeler, certains parlent de l'école Next City, on en est plutôt fiers. Donc voilà, avec plein de formations. D'ailleurs, on en a développé énormément à distanciel pendant le confinement. Mais il y a aussi du présentiel, des formations transverses, un centre d'entraînement managérial. Donc énormément, effectivement, de choses. Et là, nous travaillons donc avec le directeur de la cité sur la création d'un centre de formation en alternance, parce qu'on veut continuer à intégrer, à former des jeunes collaborateurs.
700 000 jeunes vont arriver sur le marché du travail en cette rentrée, avec un certain nombre d'incertitudes. Oui. L'alternance, vous continuez de recruter des alternants,
y compris cette année. On n'a pas beaucoup freiné, un tout petit peu, mais on accueille encore beaucoup de jeunes en alternance.
Vous n'y couperez pas, voici le petit quiz top ou encore. Vous me dites si on continue ou si on arrête le CV papier. On continue ou on arrête?
On n'arrête pas complètement, mais on limite beaucoup.
Les Zooms?
On continue.
Les team building?
On continue. Parfois distanciel.
Oui, c'est ça. Oui. Moi, je parle des vrais team building au Puy du Fou avec des règles.
Non,
c'est fini.
Ah non, ça c'est fini.
Les chief happiness officer, vous en avez?
Non.
Vous en aurez pas?
Pas réellement, pas sous cette forme.
LinkedIn?
Oui.
Est-ce que vous êtes à fond sur LinkedIn, vous-même personnellement?
Oui.
Oui, on peut.
Et j'ai été formée par un jeune collaborateur de Next City. On a fait du reverse mentoring pour que les millennials forment les plus seniors.
Et est-ce que vous répondez aux mails des gens qui vous envoient sur LinkedIn?
Oui.
Ah, très important. Envoyez des messages LinkedIn dans la boîte mail des DRH. Ça fonctionne. Il n'y en a pas un qui nous a dit que ça ne fonctionnait pas encore. Les baby-foot?
On en a quelques-uns. Voilà, on ne cherche pas forcément à en avoir davantage.
Les horaires?
Souple, décalé actuellement, pour éviter à nos collaborateurs d'être dans les heures de pointe, dans les transports pendant les heures de pointe.
Et les tests de personnalité, vous en faites ou pas?
Alors, on ne fait pas des tests de personnalité, on fait plutôt, on fait passer des questionnaires, de préférence, oui.
Merci beaucoup Sophie Audebert d'avoir été avec nous, DRH de Next City. On va passer à notre partie Better Together, on va parler gros sous, très très gros sous.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on va parler salaire. Est-ce que c'est totalement anachronique de parler salaire en cette rentrée tourmentée? C'est moi qui décide des thèmes, donc je fais ce que je veux. Mais peut-être que ça n'était pas du tout le bon moment. On va poser la question à nos invités. Fabien Lucron, bonjour. Vous êtes directeur du développement de Primeum. Khaled Aboulaïch, bonjour. Vous êtes directeur général d'Expectra. J'ai toujours autant de mal avec les noms et les prénoms. Je ne m'améliore absolument pas sur ce sujet. Alors, on va parler salaire. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est un sujet qu'il faut mettre derrière soi? Vous avez fait chez Expectra, Khaled Aboulaïch, une étude qui commence comme ceci. Pour les cadres 2020, ça ressemble étrangement à 2019 sur les questions de salaire. C'est quand même très étonnant.
Alors ça peut paraître assez paradoxal de parler de rémunération du salaire cadre. Néanmoins, on en est à notre 18e étude où on observe le comportement de la rémunération des cadres depuis plusieurs années. On était dans une dynamique extrêmement favorable les dernières années. C'est encore le cas aujourd'hui, puisqu'on observe 2,3% d'augmentation du salaire moyen des cadres. Mais c'était un chiffre à regarder avec prudence, puisque c'est une augmentation en trompe-l'œil qui ne tient absolument pas compte des effets de la crise, puisque bon nombre de cadres ont négocié leur rémunération en début d'année. Dans un contexte, je le rappelle, de plein emploi pour les cadres, on était à un taux de chômage de 3,5%. Donc un certain nombre de cadres sont encore en poste aujourd'hui. Et l'observation qu'on a faite sur notre étude, c'est que la majeure partie des cadres, et c'est une bonne nouvelle, a bénéficié d'une augmentation de salaire moyen des cadres, on parle de 2,3% cette année.
Donc c'est clairement le début de l'année, donc janvier-mars, qui tire l'ensemble de ce chiffre de 2,3% sur l'année.
Exactement.
Là, sur cette rentrée, vous êtes beaucoup moins optimiste.
Alors, il est clair que la situation avant Covid n'est pas celle qu'on va observer ou qu'on observe aujourd'hui. De toute évidence, il n'y a pas de raison que le marché des cadres soit épargné par cette crise-là, au même titre que la population active, il suffit de suivre l'actualité. Il est clair qu'on va probablement observer une fracturation du marché des cadres, avec des gagnants et des perdants. Tous les cadres ne seront pas touchés de la même manière. On observe aujourd'hui des secteurs d'activité en souffrance, on parle de l'aéronautique, on parle de l'automobile, on parle de nombreux sous-traitants qui sont autour de cet écosystème-là, et on va avoir bien évidemment des effets qui vont être assez favorables pour une partie du marché cadre.
Favorable. Défavorable. On est bien d'accord, le marché est compliqué. Fabien Lucron, vous êtes un spécialiste des rémunérations variables.
Oui.
Quand je vous avais interrogé juste avant l'été, vous m'aviez dit il n'y a aucune raison que les rémunérations variables soient en baisse. C'est même un moyen de motiver ses troupes. C'est même une réserve qu'il faut absolument que les entreprises utilisent. En cette rentrée, on est dans le même état d'esprit ?
Alors oui, je maintiens cette position pour des tas de raisons. D'ailleurs parce que, comme on le disait en off juste avant le plateau, la poche d'augmentation de salaire des fixes, compte tenu de la crise, risque d'être mise en tension. Or, un des intérêts de la rémunération variable, c'est que c'est un outil de motivation des collaborateurs qui est extrêmement précis et technique. Ça motive les collaborateurs à aller chercher une performance voulu par l'entreprise. Ce qui veut dire que on peut faire évoluer les critères de la rémunération variable, faire évoluer les objectifs, et par conséquent, récompenser les plus performants sans forcément dépenser autant d'argent qu'on en aurait dépensé si on avait augmenté tout le monde.
Alors c'est quoi un bon variable ?
Alors un bon variable...
Est-ce que c'est celui qui rémunère le plus ? C'est celui qui va compenser le fait que mon salaire, ben, il est un peu à la traîne ?
Alors non. Le bon plan de rémunération variable, c'est celui qui soutient la stratégie de l'entreprise et qui incite vraiment les collaborateurs à produire la performance attendue par l'entreprise. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas un bon plan de rémunération variable, mais il n'y a que celui qui produit les effets attendus.
Il faut que ça soit équitable, lisible,
oui.
Faut que tout le monde comprenne de quoi on parle. Il y avait quelques points. Vous m'avez dit à l'époque, équité, ouais. Lisibilité, possibilité, capacité d'action individuelle.
L'équité est un vrai sujet, surtout dans une période de crise. Un des critères de l'équité, c'est notamment d'être capable de produire des objectifs qui devront certainement, dans ces conditions, être revus, pas forcément à la baisse, qui doivent tenir compte, en tout cas, du contexte actuel. Et ce n'est pas toujours évident. C'est pas naturel aussi d'ailleurs pour une entreprise que de rabaisser notamment la notion d'objectif. D'autant plus que si l'objectif est devenu complètement inatteignable, il y a quand même de grandes chances pour que les collaborateurs ne prennent même pas le début du commencement de la course. Par conséquent, on motivera personne. Donc il est nécessaire de se dire qu'il faut se réinterroger. Alors c'est un process qui est pas si évident que ça, mais il faut se réinterroger sur comment remotiver les troupes et notamment se réinterroger sur la notion de fixation d'objectifs est un outil assez puissant de remotivation.
Alors, remotiver les équipes quand même dans un contexte compliqué. On avait juste avant la DRH de Nexity qui va quand même mettre le frein sur les embauches. Vous êtes dans quelle proportion sur les intentions d'embauche dans votre vision chez Expectra, dans vos intentions d'embauche d'ici la fin de l'année ?
Alors, déjà sur le premier semestre, on a constaté une baisse de 20% des intentions d'embauche. On sent quand même une forme de dynamisme positif entre la période d'avril où on nous promettait le chaos, etc., le manque de visibilité, le déconfinement a permis à un moment ou à un autre de favoriser un petit peu la reprise d'activité. Il faut aussi dire une chose, c'est que les cadres ont été beaucoup moins touchés par la période de confinement, puisque l'exposition au télétravail est beaucoup plus forte sur la population des cadres que sur les cols bleus. Et on sent un dynamisme qui est loin d'être les résultats qu'on a pu avoir l'année dernière en termes d'intention d'embauche. Mais entre juin, juillet, et c'est vrai que l'été a
touché les 300 000 quand même. Avant le confinement, on disait on va embaucher sur les cadres 300 000 cadres sur l'année.
Exactement. Et il est fort probable d'ailleurs que ces intentions d'embauche soient revues à la baisse avec l'actualité qu'on peut avoir. On sent des frémissements à la rentrée. Est-ce que ça va se confirmer ? Ben, on le souhaite. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que bon nombre d'entreprises continuent à fonctionner. Il y a toujours une espèce de guerre de talents sur un certain nombre de profils qui sont nécessaires et stratégiques pour le fonctionnement de l'entreprise. Mais aujourd'hui, il est extrêmement compliqué d'essayer d'avoir une visibilité sur les mois à venir. C'est vrai qu'il y a un autre aspect qui apporte un petit peu plus de confiance dans cette actualité Covid. C'est le fait que le spectre du confinement commence un petit peu à s'éloigner, ça apporte un peu plus de confiance. Si ça apporte un peu plus de confiance, les entreprises ont un peu plus de visibilité pour pouvoir investir.
Mais le talent, là, celui que tout le monde, je pose la question à tout le monde, je cherche à savoir la substantifique moelle du talent, c'est l'adaptabilité, l'agilité, mais c'est aussi celui qui sait travailler de partout.
Alors, on a vu des nouveaux comportements. Énormément d'entreprises étaient réfractaires au télétravail, par exemple. Preuve en est, c'est qu'on a été capable rapidement de déployer sur des entreprises qui étaient plutôt contre ce mode de fonctionnement-là. Donc cette agilité-là, elle existe. À un moment ou à un autre, l'ensemble de ces entreprises-là vont s'adapter. Le marché des cadres va également s'adapter sur la capacité de pouvoir, à un moment ou à un autre, trouver d'autres manières de travailler et de fonctionner.
Vous pensez, Fabien Lucron, que quand on est dans cette typologie de talent, on peut facilement aller aujourd'hui demander une rémunération variable ou fixe, supplémentaire. Il faut savoir demander un petit plus.
Alors, je pense pas que la rémunération variable soit quelque chose de négociable au titre, on va dire, du bénéficiaire. C'est l'entreprise qui, elle, émet une exigence de performance et elle y associe une rémunération, donc un montant.
C'est une stratégie globale.
C'est une stratégie d'entreprise et donc par conséquent, le collaborateur, puisque c'est une stratégie gagnant-gagnant, le collaborateur, si on a bien fait les choses, va vouloir jouer et va vouloir prendre en main ce challenge. Moyennant quoi, s'il surperforme, il gagnera forcément beaucoup plus que prévu, puisque c'est progressif, une rémunération variable. C'est pas blanc ou noir. C'est pas vous atteignez l'objectif, vous touchez un montant, et vous ne l'atteignez pas, vous ne le touchez pas. Il y a de la progressivité, fort heureusement.
Ça dépend.
Alors normalement.
Pas toujours.
En tout cas pour ceux qui se sont fait bien conseiller, normalement il y a un peu de progressivité.
Mais ça c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que dans une prime de rémunération, enfin dans une rémunération variable, il faut quand même vérifier si vous avez 90% de votre objectif, vous avez 90% de votre rémunération variable ou pas. Ça peut être zéro.
Oui, alors l'exemple que vous prenez, c'est considérer en fait qu'il y a pour le coup une dégressivité qui est totalement proportionnelle à l'atteinte de l'objectif. C'est pas forcément non plus un très bon conseil, mais en tout cas la progressivité est nécessaire, oui, parce que on peut pas avoir un système qui est purement binaire. Ça laisserait beaucoup de gens en dehors du système, et par conséquent, ça serait assez démotivant pour une bonne partie des collaborateurs. Donc oui, il faut de la progressivité. Et cette progressivité, elle amène aussi à des primes très élevées lorsqu'on est très surperformant. Donc, quand on est en réussite et qu'on est un talent, généralement, on surperforme, y compris sur les montants de la rémunération variable que l'on perçoit.
Un mot sur un autre variable, l'intéressement. Est-ce qu'on est vraiment très pessimiste sur cette question pour 2021? Pour 2020, c'est fait, hein, c'était sur 2019 que ça s'est calculé, mais pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut attendre?
On est dans un contexte économique extrêmement compliqué pour un certain nombre d'entreprises. Encore une fois, toutes les entreprises ne souffrent pas, hein, mais bien évidemment qu'il est fort à parier que, compte tenu de la performance d'un certain nombre d'entreprises en difficulté, il est fort probable qu'il puisse y avoir un impact sur l'intéressement, étant donné le manque de performance de certaines entreprises.
Ça va passer à la trappe, quoi. Très probablement. Enfin, je veux pas.
Ça va passer à la trappe. Je crois que la méthodologie de calcul de l'intéressement est liée au résultat de l'entreprise. Et bien évidemment, si les entreprises sont en souffrance, ça va être un peu plus compliqué sur cet aspect-là.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Fabien Lucron, directeur du développement de Priméum. Khaled Aboulaïche, directeur général d'Expetra. Je suis beaucoup mieux pour dire les noms à la fin de l'émission qu'au début de l'émission. C'est la fin de cette émission. Bon week-end à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour Happy Boulot le Mag. En attendant, bon week-end sur BFM Business.
BFM Business, Happy Boulot le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.